Le 11 et 12 juin 2024, à l'occasion du colloque inter-ENS intitulé « L'égalité des chances, la diversité, l'ouverture », Cadécole est allé tendre son micro aux différents intervenantes et intervenants de ses deux premières journées à l'ENS de Lyon.
Donc le système scolaire s'est massifié, à défaut de se démocratiser depuis, on va dire, sortie de la Seconde Guerre mondiale, ou à peu près.
Un peu plus tard.
Un peu plus tard,
c'est
voilà.
Années, mais, c'est les années 60 quand même. Oui.
Donc il s'est massifié à partir des années 1960. Et on a l'impression aujourd'hui que l'enseignement supérieur vit un petit peu le même phénomène depuis une vingtaine d'années. En accueillant, vous aviez fait un livre sur les lycéens à la fin des années 80, avec ces nouveaux lycéens. Et finalement, depuis une vingtaine d'années, l'enseignement supérieur découvre les nouveaux étudiants. Est-ce que ce parallèle est tout à fait correct ou
Non, le parallèle est parfaitement correct. Je veux dire, on a des vagues. On a eu la vague collège, on l'a un peu oublié, puis la vague lycée, puis la vague enseignement supérieur. Alors évidemment, les institutions ne réagissent pas exactement de la même manière. Ce qui caractérise l'enseignement supérieur, c'est que plus il accueille, plus il se diversifie, plus il se complexifie. J'écoutais là d'ailleurs des parcours d'étudiants qui sont absolument incroyables. Ils font
des orientations.
Bon, au fond, le système, quand il était fermé, était assez homogène. Bon, vous aviez trois bacs, des licences très parfaitement définies, quelques grandes écoles. N'importe qui s'y repérait. Aujourd'hui, Parcoursup propose, je crois, 23 000 formules. Enfin bon. Donc, il y a eu un double changement. D'une part, le premier, évidemment, c'est l'arrivée des nouveaux élèves, enfin, de ceux qui n'entraient pas jusque-là, ce qui fait que c'est un progrès démocratique, de ce point de vue-là. Il faut quand même bien le dire. Si on définit la démocratisation par la capacité d'en être, c'est comme le marché des voitures, je veux dire, il y en a de plus en plus, c'est plus démocratique. Mais le système s'est complètement complexifié, c'est complètement hiérarchisé, je veux dire, toutes les licences ne se valent pas, toutes les formations ne se valent pas.
Tous les établissements ne se valent pas.
Ça, c'est la première difficulté. C'est un système hyper complexe et ça ne s'arrangera pas. Et la seconde chose, évidemment, c'est que les seuils décisifs de sélection se retardent. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, tout le monde trouve grosso modo une place en première année d'enseignement supérieur. En master, ça devient très compliqué. Bon. Parce qu'il y a bien un moment...
En tout cas, c'est le jeu de l'offre et la demande et que...
Oui, non, mais il y a un moment où il faut arrêter. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. Les gens ont envie d'entrer dans la vie, on ne peut pas financer éternellement des études. Et puis le rapport au travail, à l'emploi se pose. Donc, mon sentiment, c'est pour dire les choses simplement, c'est qu'aujourd'hui, on est au terme d'une histoire. C'est-à-dire que je regarde cette histoire depuis le début des années 60, on ouvre les portes du collège, puis du lycée, puis des lycées professionnels, puis de l'université. Voilà. Et en France comme ailleurs, il y a le sentiment que cette politique qui consiste à dire l'ouverture fait office de politique scolaire, c'est quelque chose d'un peu terminé pour deux raisons. La première, c'est que... Pour trois raisons. La première, c'est que les inégalités n'ont pas été réduites. Le mode de production des inégalités s'est transformé, mais les inégalités n'ont pas été réduites. La seconde, comme l'explique bien mon ami Marie Duru, c'est qu'on a quand même une forte rentabilité des diplômes en haut du système. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une revanche qui m'est agréable en bas dans les formations professionnelles, mais au milieu, il y a une dévaluation, crée moins d'emplois.
La sélection pour les filières BTS,
voilà.
BUT,
voilà.
etc. Voilà. Est forte.
Est forte. Elle est forte en haut et au milieu,
la licence,
etc. Et puis, on ne crée pas autant d'emplois qualifiés que de formations. Ça, c'est la deuxième raison, je crois, c'est en train de décliner. Et puis, il y a peut-être aussi, semble-t-il, une forme de lassitude. Enfin, j'ai le sentiment que l'enthousiasme des étudiants pour les études est en train
de fléchir
un peu. Et peut-être qu'on va passer vers de nouveaux types de formations, d'entrée dans le monde du travail. En tout cas, voilà. Les étapes ont été parcourues, on a chaque fois eu le même type de problème. Les inégalités, le niveau qui n'a pas monté autant que les années d'études, le rapport à l'emploi qui se relâche. Alors, ce qui est très ennuyeux, c'est que ça serait un formidable débat politique et que personne en parle dans ces termes parce que...
Il y a des mots qui sont revenus aussi, notamment dans les échanges du jour, autour du sentiment de frustration ou le sentiment d'injustice pour ceux, en tout cas, qui pensent mériter, parce qu'on n'a pas utilisé le mot de mérite alors que c'est un peu au cœur des échanges de la journée, mais de frustration pour ceux qui pensent avoir telle place.
Il y a deux choses dans le sentiment de frustration. Il y a le premier, c'est la promesse non tenue. C'est-à-dire, faites des études, ça va payer. Bon, si ça ne paye pas, il y a une frustration, il y a du ressentiment, il y a le fait que, au fond, j'ai fait 3 ans d'études de plus que mes parents et je n'arrive pas à occuper le même emploi qu'eux, ce qui est quand même un peu frustrant. Ça, c'est une chose. C'est l'effet inflation. Et le second, c'est que dans un système comme ça, vous êtes obligé de jouer le jeu. Vous êtes obligé de jouer le jeu. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait un débat qui m'a beaucoup amusé, où on disait les gens s'autocensurent. Parce qu'il va de soi qu'on doit avoir envie de faire les plus longues études possibles.
Et les plus...
Et les plus prestigieuses possibles. Et donc, à partir de là, vous avez un monde... C'est une idée qui me tient beaucoup à cœur, c'est que vous êtes dans un monde vainqueur-vaincu. Il y a ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu. Et ceux qui ont gagné, au fond, occupent légitimement une position sociale, mais ceux qui ont perdu l'occupent tout aussi légitimement parce qu'ils n'avaient qu'à gagner. Et donc, vous voyez se développer un ressentiment à l'égard de l'école, une frustration qui est bien plus qu'un sentiment de promesse trahie, qui est un sentiment quasiment d'humiliation et de mépris. Alors, quand je dis ça, ça paraît très, très excessif. Mais je regarde les mutations des électorats. Et on s'aperçoit que le diplôme devient le facteur décisif du vote. Et que, grosso modo... Alors, la dernière élection a un peu changé les choses, je dois dire. Mais, aux européennes. Mais jusque-là, grosso modo, les vainqueurs, ceux qui ont gagné à l'école et sur le marché du travail, vote social-démocrate, droite libérale, écologiste, Macron, dans le centre bien élevé, au fond. Je vote comme eux, d'ailleurs, donc je n'ai aucune raison de les dénoncer. Et ceux qui ont perdu basculent vers le ressentiment, l'humiliation, l'abstention, le rejet des élites, etc., etc. Donc, et ça n'est pas qu'en France. Je veux dire, l'électorat Trump, c'est l'électorat qui n'a pas fait ses études et qui déteste les gens de la côte Est, qui les méprise. L'électorat du Brexit, c'est le même, etc., etc. Donc, il y a plus qu'un sentiment d'injustice. Il y a quelque chose qui a complètement changé dans le mode de distribution des individus dans la société. Moi, je suis né dans une société où, grosso modo, le destin social commandait. Donc, si vous... Né à tel endroit, dans tel milieu, voilà ce que vous alliez faire. Donc, vous pouviez en vouloir à la société, mais pas vous sentir responsable et coupable. Tandis qu'aujourd'hui... Vous sentez responsable et coupable, et donc vous avez cette obligation de jouer. Si vous perdez,
tant pis pour vous.
Tant pis pour vous. Et ce qui est très ennuyeux dans ce modèle, c'est que même s'il y avait de l'égalité des chances, il serait bon qu'il y en ait beaucoup plus, il y aurait quand même des vainqueurs et des vaincus. Et on pourrait même imaginer, comme le pensait Malcolm Young, l'anglais qui a écrit s'élève sur la méritocratie, c'est que d'une certaine manière, plus ça marche, plus c'est violent. C'est d'une certaine façon, parce que vous êtes obligé d'assumer vos échecs. Donc, il me semble que nous avons vécu cette période, moi, ça a été ma vie... Le nombre de bacheliers augmente, les filles triomphent à l'école, pas tant sur le marché du travail, mais ça s'ouvre, la jeunesse s'allonge, l'âge du mariage recule, c'est le progrès. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est au bout de cette logique, d'autant plus que on s'aperçoit quand même si je ne suis pas un spécialiste de ces questions, que la distance entre les compétences académiques et que les compétences professionnelles est quand même plus grande ou plus incertaine qu'on le suppose. Donc moi, je me souviens avoir interrogé des patrons leur disant qui me disaient « Mais vous savez, quelqu'un qui a une licence d'anglais, je ne sais pas ce qu'il sait faire. » Ce qui est vache quand même pour quelqu'un qui a fait 3 ans d'anglais, mais... Et du point de vue du patron, ce n'est pas irrationnel.
Alors, le colloque dans lequel on est un colloque organisé par les quatre ENS en France. Et pour vous, par rapport à tout ce qu'on vient de dresser, quelle est la place ou la position que ces ENS occupent, filière hyper sélective, voilà, quel rôle elles jouent ou elles ont pu jouer, qu'elles jouaient, qu'elles ne jouent plus?
Ben, je crois que l'âge d'or, en tout cas idéologiquement, des ENS, c'est l'âge de l'élitisme républicain. C'est-à-dire, c'est pas du tout l'égalité des chances. Alors, pas du tout l'égalité des chances. La plupart des gens ne sont pas concurrents, savent même pas que ça existe. Simplement, si vous êtes né au bon endroit, vous y allez. Et si vous êtes un élève particulièrement doué, travailleur, méritant, votre instinct vous pousse. Et vous allez finir à l'école normale d'instituteurs et le fils de l'école normale d'instituteurs fera le...
C'est les trois générations voilà. Pour...
Mais ce n'est pas un modèle d'égalité des chances. Mmh. C'est un modèle de méritocratie...
Ce que Baudelot et Stabilé avaient raconté dans
oui,
le
mais l'élitisme républicain. C'est dans tous les romans. Enfin, ouais. Je veux dire, vous prenez Marcel Pagnol, c'est comme ça. Voilà. Bon. Donc ça, c'est un modèle qui a été évidemment extrêmement robuste, d'autant plus que... Il y avait une croyance très forte dans la science, dans la culture, dans la raison. Et c'est au fond la croyance élitiste française. Les élites, c'est aussi l'universel, etc., etc. Bon, évidemment, quand on entre dans une école de masse, ça change la nature du jeu, parce que tout le monde peut être concurrent. Le recrutement peut être plutôt plus démocratique que naguère, mais il n'empêche... que comme tout le monde a le droit d'y prétendre, ces écoles normales, comme Sciences Po, comme ça...
Les écoles comme les SEC, etc.
...sont perçues comme le cœur de l'injustice sociale. Au fond, à la fin, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et donc, je comprends tout à fait les écoles qui disent qu'il faut absolument qu'on trouve des procédures, des manières de s'y prendre pour que ça soit quand même moins la reproduction la plus dure, voire... le monopole d'une forme d'excellence scolaire très particulière, il faut ouvrir le jeu, parce qu'autrement, idéologiquement, enfin, aujourd'hui, les grandes écoles se heurtent à ce problème, qui est un problème qui est très bien exposé dans ce qu'on a écouté. D'un côté, il y a quand même une exigence de qualité académique, notamment dans les sciences dures, où bon, faire trop n'importe quoi. Et en même temps, un désir d'ouverture, d'où la diversité des modèles. On va chercher des gens ailleurs, on en fait rentrer par la petite porte, mais ils rentrent quand même.
Et ils ont le même diplôme.
Ils ont le même diplôme à la sortie, donc on essaie d'ouvrir. Mais je crois que c'est tout à fait louable et fondamental, mais il faut bien comprendre que si on regarde le jeu de plus loin, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça ne renouvellera pas les élites aussi considérablement que ça, parce que, comme ça a très bien été exposé par Menger, les élites ont des stratégies alternatives. Si demain, les enfants du peuple vont à Normal Sup, j'enverrai mes gosses à Cambridge.
Ou à New York.
Ou à New York, ce qui est déjà en train de...
D'être en train de
s'esquisser. Et Goldthorpe, qui est un sociologue anglais, avait dit ça dans les années 80, disant, rassurez-vous, les classes dirigeantes iront jouer un autre jeu quand le leur... Quand le tennis sera populaire, ils passeront au golf. Voilà. Bon, c'est pas compliqué. Donc, voilà. Ça, c'est quand même... Il faut le faire, mais ça a des limites. Et puis, je crois que la seconde limite, évidemment, mais c'est pas un reproche. Ça serait absurde. C'est de dire que le problème majeur, c'est pas la sélection des meilleurs. C'est que fait-on des vaincus. C'est ça, le problème majeur. Le problème majeur, aujourd'hui... C'est pas qu'il y ait peu d'enfants d'ouvriers qui fassent Normal Sup. C'est que 25% d'entre eux, quand ils entrent en sixième, ne savent pas vraiment lire. Parce que ça, c'est sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, c'est beaucoup plus lourd. Je ne sais pas
et
si
ça
je me
dure.
Fais comprendre. Ah ben, on peut déjà écrire le parcours scolaire de l'élève en question. On peut quasiment esquisser son parcours professionnel et son parcours politique. Donc... Il faut bien comprendre que le raisonnement, qui est quand même une maladie française, de regarder le monde scolaire uniquement à partir du sommet, je crois qu'il faut le regarder. Mais l'essentiel du problème se joue avant et à côté. On pourrait même, d'ailleurs, mais je, ça serait d'une grande cruauté, mais rappeler les paradoxes auxquels se sont heurtés les Américains, par exemple, en disant « nous allons aller dans le monde afro-américain prendre les meilleurs élèves pour les sortir et en faire une bourgeoisie noire », ce qu'ils ont fait. Moi, je suis assez vieux pour me dire, dans les années 60, imaginez un médecin noir aux États-Unis, ça n'a aucun sens. Bon. Donc, il s'est créé une bourgeoisie noire. Mais pendant ce temps, les ghettos se sont appauvris. Et je me dis quelquefois, quand je regarde l'évolution des banlieues françaises auxquelles je m'intéresse, que ce phénomène qui fait que ceux qui réussissent fuient et qui sont remplacés par des plus pauvres qui viennent d'encore plus loin, ça va commencer à poser des grands problèmes. Donc, d'un côté, l'égalité des chances nous oblige à élargir le recrutement, mais de l'autre côté, l'égalité des chances, ce n'est pas un modèle, de mon point de vue, de justice
sociale,
sans paradoxe, et universelle et sans paradoxe. C'est parce que l'égalité des chances, au fond, c'est le modèle des inégalités justes. C'est ça le problème. Ce n'est pas un modèle qui dit on veut de l'égalité, c'est un modèle qui dit on veut que les inégalités soient justes parce qu'issues d'une compétition équitable.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'injustice.
C'est formidable quand vous faites du sport. Mais bon, peut-être pas organiser la vie sociale
comme un match de foot.
Comme un match de foot éternel, surtout si on a le niveau de civilisation des joueurs de foot. Bon, c'est une remarque d'un amateur de rugby.
Merci beaucoup.
Merci.
À la production, Régis Guyon, et à la réalisation, Sébastien Boudin. À bientôt sur Cadécole.